Audiolib présente. Feu dans la plaine. D'Olivier Sichelski. Lu par Tariq Mehani. Pour Nina et Marie, évidemment. I learn by going where I have to go. Théodore Edki, The Waking. Première partie. Altitude 840 mètres. Chapitre 1. C'était ça, du bleu. Il avait d'abord eu la sensation vague d'une anomalie. Il s'était arrêté. Il avait écouté. N'avait rien entendu d'autre que le roulement de la rivière en contrebas, presque imperceptible en cette saison. Et le chuchotis du vent dans les cimes des résineux. Il avait jeté un regard circulaire autour de lui, sur le sol semé d'aiguilles et de pierres blanches, sur l'anarchie familière des genêts, des buis et des genévriers, et la brume tiède et rosâtre qui brouillait juste en face la colline de Villedieu. Il s'était remis en marche pour s'arrêter aussitôt. Il avait vu du bleu. Une tache bleue dans le vert des sapins, un trait de peinture tout récent sur un tronc. Machinalement, il toucha l'écorce et porta son regard plus loin. Une autre tache bleue, cette fois sur une pierre, à une quinzaine de mètres. Entre les deux s'esquissait un sentier. Pas une draille ni une des pistes qui s'étaient formées sous ses pas depuis qu'il arpentait la colline, sa colline, non. Arrivé à la pierre, il vit une nouvelle marque sur le tronc d'un jeune chêne. Entre les deux repères, la filante avait été piétinée. Et la marque suivante avait été tracée sur un rejet de pin dont les branches étaient coupées nettes d'un côté. Un sentier avait été ouvert et consciencieusement marqué en bleu. Stanislas Kozinski suivit les traces pendant un bon moment. Le sentier contournait l'aire de nourrissage, puis tirait des bords sur la pente rocailleuse. Certains jeunes sapins avaient même été sciés pour ouvrir le chemin. Ceux qui avaient fait ça n'avaient pas cherché à être discrets. Le sentier descendait un moment la côte qui s'effritait jusqu'à la route, 200 mètres plus bas, avant de virer à droite au flanc d'un ravin touffu et frais où le soleil ne pénétrait jamais et que Stan n'avait pas pu explorer jusqu'alors tant la végétation y était dense. Il continua jusqu'au point où le sentier traversait le lit du torrent qui avait façonné le ravin, des millénaires durant. Cela paraissait difficile à croire tant le filet d'eau y était maintenant dérisoire. Ce torrent marquait peut-être la limite du terrain. Il n'en était pas sûr. Il faudrait regarder les relevés cadastraux. Quand Stan avait acheté la maison, les 60 hectares faisaient partie du lot. 60 hectares de maquis et de ravins, répartis en parcelles disparates, certaines ne se jouxtant même pas. Le terrain n'était ni cultivable ni constructible, et ces 60 hectares ne valaient pas grand-chose, sinon le prix de la tranquillité. Ils étaient la garantie qu'aucun voisin ne viendrait respirer son air avant longtemps. Il y avait bien Guylaine, mais Guylaine était discrète. Derrière les grands chênes, sa maison restait invisible. Et le piétinement nonchalant de ses ânes n'avait rien d'une nuisance. Seule sa manie de tout débroussailler pouvait être un peu bruyante au printemps. Mais c'était un prix modeste à payer pour tous les services qu'elle lui rendait. Cela faisait une heure que Stan suivait le sentier bleu, quand il trouva une cartouche vide. Il la ramassa et la fourra dans sa poche. Il regarda la piste qui se fondait dans le maquis et se demanda jusqu'où elle le mènerait. Il hésitait à continuer. Le soir tomberait dans moins de 2 heures et il n'avait ni lampe, ni carte, ni eau. Il rebroussa chemin